Je me souviens la première fois que j'ai entendu le message de l'Évangile. On m'a présenté Jésus-Christ. C'était le 25 octobre 1974. Et ce soir-là, bien, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis tombé en amour avec lui. J'ai vu tout ce qu'il me proposait comme pardon, puis comme transformation dans ma vie, comme assurance pour l'éternité. Mais c'est seulement plus tard que je me suis rappelé que il y avait eu un travail que Dieu avait fait dans ma vie avant ce soir-là. Et même, je me souviens ce soir-là, merci Suzanne, lorsque je suis rentré dans cette salle un peu comme celle-ci, je suis rentré tout à fait, il me semble, inconscient de mon besoin spirituel. J'avais accepté une invitation, ma sœur m'avait invité pour aller à cette rencontre, d'accord, et je suis rentré. Et dans la première demi-heure, de cette rencontre, une telle conviction s'est déposée dans mon cœur d'un besoin. J'avais 17 ans. À 17 ans, croyez-moi, en tout cas moi, je ne sentais pas de grands besoins dans ma vie. Mais dans les 30 minutes qui ont suivi, waouh, j'avais un profond besoin, une réalisation que j'avais besoin de Jésus dans ma vie. Et ça, j'ai compris plus tard, ça avait été le travail du Saint-Esprit qui m'avait préparé pour entendre parler de Jésus. Je me suis accroché à Jésus. Il est devenu mon sauveur. Ça a transformé ma vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui avait préparé mon cœur pour ce moment-là, qui m'avait convaincu de mon besoin. Et moi, peut-être comme vous, du moins je le souhaite, je vous le propose, moi je suis en amour avec Jésus. Moi c'est Jésus, Jésus est tout est suffisant pour moi en Jésus. Mais pourtant, quand je lis les paroles de Jésus, Jésus lui-même n'arrête pas de me parler du Saint-Esprit. Jésus lui-même m'invite à donner de la place au Saint-Esprit. Je nous propose Jésus comme notre enseignant ce matin, qu'on se mette à son écoute comme on a commencé dimanche dernier. Qu'est-ce que Jésus nous dit, lui, du Saint-Esprit? Pas qu'est-ce que Jean-Martin croit du Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu crois sur le Saint-Esprit, c'est important évidemment, mais qu'est-ce que Jésus lui pensait du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit avait rapport avec Jésus? Et on a commencé la semaine dernière en regardant dans l'Évangile de Luc et un peu dans la suite de l'Évangile de Luc, c'est ce qu'on appelle les Actes des apôtres, c'est aussi écrit par Luc. C'est comme volume 1, volume 2. On a commencé à regarder comment Luc, lui, nous présente Jésus par rapport au Saint-Esprit. Donc, Jésus, le Saint-Esprit et moi, Jésus, le Saint-Esprit et toi, leur juste secret, à la fin, vous n'aurez probablement pas tout à fait leur juste sur le Saint-Esprit. Il y aura encore des questions après. Le message de la semaine dernière, quelques personnes sont venues me voir, m'ont dit, moi j'ai une question, ceci, cela. Une autre m'a dit, moi je suis plus mêlé qu'au début. Voilà, j'ai dit, ah voilà. On dépend du Saint-Esprit, notre enseignant par excellence. Et si vous êtes débousselé un peu, c'est correct. Si vous êtes débousselé un peu, c'est peut-être une invitation à laisser l'Esprit de Dieu prendre plus de place, de préciser des choses. Le but de ces deux dimanches, ce n'est pas d'avoir des réponses à toutes nos questions sur le Saint-Esprit, mais de développer une relation de confiance avec le Saint-Esprit. Parce qu'on a commencé à noter très clairement que pour Jésus, le Saint-Esprit, bon bien, c'est super. Jésus et le Saint-Esprit, deux inséparables. Donc, voilà, nous allons tenter à la fois de reprendre certains éléments de la semaine dernière, mais évidemment de se lancer vers l'avant. Si vous n'étiez pas là dimanche dernier, les 5-7 prochaines minutes seront pour vous surtout, mais aussi si vous étiez là, ça sera un bon rappel. Donc prions tout d'abord pour commencer. Père, Fils et Saint-Esprit, on ne veut pas laisser de côté tout ce qu'est Dieu. Tout ce que Dieu, tu nous proposes, toi Père, toi Fils et Sauveur, toi Saint-Esprit. nous te demandons le privilège, la grâce, ô Dieu, de mieux connaître ton Saint-Esprit, de lui faire confiance, d'être capable de se mettre à son écoute, de se laisser conduire. De lui faire confiance dans nos vies. De le laisser prendre toute la place qu'il veut prendre dans nos vies, de nous remplir. Donne-nous davantage ce désir, cette passion. Je demanderai au Dieu surtout aujourd'hui de parler à chacun d'entre nous. Si tu veux utiliser des paroles qui viennent d'ici, fais-le sûrement. Si tu veux contourner ce que moi j'apporte, fais-le aussi. Mais parle à chaque cœur, qu'on puisse savoir qu'au Saint-Esprit, tu nous as parlé ce matin. Amen. Luc, l'évangéliste, nous dit que les premières paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, c'était dans Luc 4, il est dans la synagogue, la congrégation est réunie, il se lève, il ouvre les Écritures dans Ésaïe, et il lit ce texte, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est Jésus qui parle, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Jésus commence comme ça. La première chose qu'il dit, c'est que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tout de suite, il comme tourne nos regards vers le Saint-Esprit. C'est fort, là. C'est pas plus tard, vers la fin de son ministère, mais dès le début. Et il semble nous dire, Jésus, là, vous allez me voir aller. Mais sachez que c'est à cause que le Saint-Esprit m'a oint, m'a envoyé. Ce que je suis, ce que je dirai, ce que je ferai, c'est parce que le Saint-Esprit m'a oint, parce que je suis sous son autorité, sous sa grâce, sous sa puissance. Donc, Jésus commence au tout début de son ministère en mettant ça au clair. Moi, ça me rassure énormément. Moi, ça m'invite à plus que me poser la question par rapport à ma relation au Saint-Esprit, mais vraiment à faire confiance au Saint-Esprit. À la toute fin de son ministère, quelles sont comme les dernières paroles que Jésus va dire? Maintenant, on est à la fin de l'Évangile de Luc. On a même sauté dans le début du livre des Actes. C'est toujours Luc qui écrit. Et Luc nous dit que comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Puis là, il leur rappelle, Jean baptisé d'eau, c'était super. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il va continuer en leur disant, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les dernières paroles de Jésus, selon Luc. Encore, il nous parle du Saint-Esprit. Encore, il semble vouloir maintenant non parler seulement de sa relation avec le Saint-Esprit, mais notre relation avec le Saint-Esprit. Et il nous dit, attendez, arrêtez, vous avez besoin. On a commencé cette semaine. On a eu 11 de nos 14 cours à l'Institut biblique Vie. Il y en reste encore 3 à commencer. Et dans les 11 cours, j'ai eu le privilège, et toujours, c'est une grande joie pour un doyen, au tout début d'un cours, de présenter le professeur, de présenter les étudiants au professeur et vice-versa, de présenter les nouveaux étudiants. On a 12 nouveaux étudiants, je pense, cette session. Et pour chacun d'entre eux, cette session, j'ai parlé de la place du Saint-Esprit dans une école comme la nôtre et dans leur vie. On vient à l'école parce qu'on veut étudier, on veut avoir des réponses à nos questions. Et c'est facile de ne pas donner la place au Saint-Esprit. Pour Jésus, le Saint-Esprit avait toute une place dans sa vie. Donc, Jésus, le Saint-Esprit et toi, l'heure juste, j'espère du moins que l'heure sera un peu plus juste pour vous, arriver à la fin. Que ce sera au moins juste sur plusieurs choses qu'on veut préciser. On a vu dimanche dernier plusieurs passages, et je vous les lis juste très rapidement ici. Vous allez les voir probablement à l'écran. Avant que Jésus ouvre la bouche dans la synagogue, bien, Luc nous prépare et nous dit plusieurs choses à travers certains des intervenants. L'ange dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Un peu plus tard dans Luc chapitre 3, et le Saint-Esprit descendit sur Jésus lors de son baptême, vous vous souvenez? Lui, le Saint-Esprit, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Toi, là, t'es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ou qui a toute mon approbation. » Plus tard, Jean-Baptiste va dire à la foule, « Moi, là, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, voyez-vous que même avant que Jésus se présente dans les synagogues, le Saint-Esprit est là depuis le début. Il est lié à la personne, à l'œuvre et aux paroles de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 4, le Saint-Esprit va diriger, mener, conduire Jésus dans le désert pour la tentation. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et un peu plus tard, dans Luc 4 encore, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Et le texte qu'on vient de lire dans la synagogue, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Maintenant, c'est Jésus, à ce moment-là, qui parle. Donc, rapidement, ce qu'on a vu, et on va continuer à voir aujourd'hui, c'est que ce sont deux inséparables. On ne peut pas être attaché à Jésus sans dire « Monte-moi le Saint-Esprit, Jésus ». « Enseigne-moi. » On ne peut pas s'attacher au Saint-Esprit sans très rapidement être présenté, se faire présenter Jésus. Donc, on a vu plusieurs choses, entre autres, la semaine dernière. C'est le Saint-Esprit qui, par la conception surnaturelle, c'est le Saint-Esprit qui a rendu l'incarnation possible. C'est le Saint-Esprit qui a rendu possible l'incarnation du Fils. Pas de Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu de Noël. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. On a vu aussi que là où Dieu intervient dans notre humanité, dans ta famille, dans ton commerce, dans l'Église Oasis, quand Dieu intervient, c'est par son Saint-Esprit qu'il intervient parmi les hommes. Et on a vu que là où passe le Saint-Esprit, il y aura toujours des choses qui nous dépassent. L'incarnation, essayez d'expliquer là. Il est entièrement Dieu, entièrement homme. Ben, un instant, là, explique-moi ça parce que je ne comprends pas. Là où l'Esprit passe, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas à expliquer. Mais on les reçoit, on les admire, on essaye de comprendre. Et voilà, là où l'Esprit passe, le Saint-Esprit est à l'œuvre et il y aura des choses souvent inexplicables qui vont se passer dans ta vie, dans ma vie. On a aussi vu que Jésus, lui, a été baptisé du Saint-Esprit. Donc, Jean le Baptiste le baptise avec de l'eau, mais c'est pas Jean le Baptiste, c'est pas Jean-Baptiste qui le baptise du Saint-Esprit, mais l'Esprit descend et Jésus est baptisé aussi du Saint-Esprit. Et la première chose qu'on entend, c'est que c'est une déclaration d'amour du Père envers son Fils. Le Saint-Esprit va toujours commencer en nous déclarant l'amour du Père pour nous, pour Jésus, évidemment. Jésus, lui, est rassuré et affirmé dans sa mission lorsqu'il entend son papa lui dire, « Tu es mon fils, je t'aime, je suis avec toi, tu es précieux pour moi. » Jésus, Jean-Baptiste va nous dire, lui-même par la suite, Jésus va baptiser les croyants du Saint-Esprit. Donc, Jésus est baptisé du Saint-Esprit, puis lui-même va devenir le baptiseur. Il baptise le croyant du Saint-Esprit. vraiment deux inséparables. Ils font partie de la même famille. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de division, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... on se fait du coude. On peut aller à la prochaine diapo, probablement. On a vu aussi que Jésus, lui, fut rempli du Saint-Esprit et qu'il était toujours rempli du Saint-Esprit. Depuis son baptême, on le suit. Il est toujours, le Saint-Esprit est toujours en train de le remplir, de le conduire, de lui dire, de le diriger. Jésus est toujours rempli du Saint-Esprit. Il se laisse remplir, il se laisse mener, diriger. Il se soumet au Saint-Esprit. C'est notre Sauveur, c'est le Fils, le Messie qui se soumet au Saint-Esprit. Il laisse le Saint-Esprit décider. C'est quelque chose. Quand Jésus, on a vu la semaine dernière que quand Jésus nous parle du Saint-Esprit, nous enseigne ce Saint-Esprit, il est à quelque part, il est en train de nous parler de son expérience avec le Saint-Esprit. Vous me suivez? Il ne nous parle pas d'une théologie ici dans les cieux, là. Il nous parle de ce que lui vit avec le Saint-Esprit et il nous propose la même chose. Jésus nous enseigne ce Saint-Esprit à partir de son expérience à lui. Il est revêtu, nous dit le texte qu'on a vu du Saint-Esprit, d'une puissance. Donc, c'est quelque chose. Jésus ne vient pas dans sa propre puissance, il vient dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Jésus crédite son ministère au Saint-Esprit, lui donne la gloire à 100%. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Oui? Et on veut poursuivre encore cette semaine dans l'Évangile de Luc. On continue, on va aller jusqu'à la fin, mais vous allez voir que ça va aller rapidement ce matin. Et j'aimerais nous amener à un moment où on va laisser la place ce matin à l'Esprit de nous parler, de te parler, toi personnellement. Et il le fait sans doute déjà. Allons dans Luc chapitre 10 et au verset 21. Luc chapitre 10, le verset 21. Jésus vient d'envoyer ses disciples, deux par deux, dans des villages, etc. Puis là, Jésus suit de loin, il vient un peu plus tard, les disciples ont préparé son chemin. Puis là, la mission, elle est comme complétée. Ils ont fait combien de villages, je ne sais pas. Mais là, Jésus les rassemble, leur dit, bien, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Parlez-moi de ça. Puis là, ils se mettent à jaser ensemble. Et là, Jésus, il est comme tout ému parce qu'il y a des choses qu'ils ont compris. Il y a d'autres choses qui ont mal compris, mais il y a des choses qui ont bien compris. À ce moment-là, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je suis très reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. » Petit détail ici, mais encore, c'est Jésus. Je me suis intéressé à chaque fois que l'Évangile de Luc nous parle du Saint-Esprit, surtout quand Jésus nous parle du Saint-Esprit dans l'Évangile de Luc. Ici, Jésus dit, bien, Luc dit au sujet de Jésus, « Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. » C'est simple, n'est-ce pas? Mais Jésus, il prenait sa joie où? Dans le Saint-Esprit. Sa joie venait du Saint-Esprit. Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Ce n'était pas, selon ce texte, sa propre joie, mais la joie du Saint-Esprit. Paul va nous dire dans Galates, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour suivi par la joie, la paix. La joie, c'est ce que l'Esprit produit. L'amour, la joie, la paix, la patience. Et dans la vie de Jésus, l'Esprit de Dieu produisait ça. Et à un moment donné, Jésus, il est comme rempli de joie. Il se met à louer Dieu. Et Luc nous dit, ça là, ça c'est le travail du Saint-Esprit. La vie émotionnelle de Jésus. Sa vie émotionnelle. Ses affections profondes. Ce qui le mobilisait dans ses tripes, on va dire, dans son cœur, c'était des mouvements du Saint-Esprit. ses émotions. Le Saint-Esprit était là. Allons dans Luc chapitre 11, verset 13. Jésus dit, « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » D'abord, regardons ce qu'il y a d'évident dans ce passage-là, il me semble. On peut dire au moins ceci, c'est que le Saint-Esprit, bien, il est lui aussi une bonne chose, même plus qu'une bonne chose. Il est une personne. Mais si donc, mauvais comme nous sommes, on est capable de donner quelque chose de bon à nos enfants, hein, on est d'accord? Bien, Jésus dit, si vous saviez comment le Père, lui, comment il est bon, et comment il donne, pas juste des bonnes choses, mais le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, le Saint-Esprit, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de bon. C'est un don que Dieu donne sans hésitation à ceux qui le lui demandent. On va revenir sur la demande dans quelques minutes. Mais je pense qu'il y a ici quelque chose encore plus riche. Je vous suggère dans cette parabole, parce qu'il y a une parabole qui précède. Et j'aimerais qu'on la regarde rapidement ensemble. Je pense qu'il y a dans cette parabole une comparaison extraordinaire. Dans Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Et je ne prendrai pas le temps de tout la lire. Mais en gros, vous vous souvenez, j'espère, de cette parabole, lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour dire, « Ami, prête-moi 3 pains. » Puis son ami dit, « Écoute, on est fermé, là. » Une maison à l'époque, là, quand tu fermais, c'était fermé, là. Rouvrir, on était souvent plusieurs dans une même chambre. C'était vraiment, là, me lever pour te donner du pain, mais un instant, là. Donc, c'était cette parabole-là, vous vous souvenez? Puis il insiste, finalement, son ami se lève, ben oui, il lui donne du pain pour les amis qui viennent le visiter, lui, chez lui. Vous me suivez? Oui, ça va? Et c'est après ça que Jésus va dire, bien, si vous êtes bon, vous savez donner du pain, etc. Il semble que Jésus, dans cette parabole, est en train de dire ceci. Quand un ami vient te demander de l'aide, tu lui en donnes, oui? Oui, hein? Sauf exception, on en donne. On n'est pas toujours heureux de nous faire déranger, surtout en plein milieu de la nuit. Hein, c'est peut-être comme on décroche le téléphone des fois. Mais c'est quand même un ami. Et au pire, parce qu'il est un ami, s'il insiste un peu, s'il ne catche pas le message d'aller se coucher puis de revenir demain matin, ben écoute, ben oui, je vais me lever, là, quand même. C'est Jean-François. Je ne serais pas dehors en plein milieu de la neige en train d'attendre, là. Je lui dirais, toi, mon Jean-François, mais voilà, voici tes pains, hein? Puis je vais lui donner une grosse bise quand même. Parce qu'il est mon ami. Et là, Jésus dit, c'est de cette parabole-là qu'il va parler du papa qui donne des bonnes choses à ses enfants. Donc, ça commence avec l'amitié, puis ensuite, Jésus amène ça à la relation d'un papa avec son enfant. Donc, vous voyez, on vient de prendre un pas d'intimité encore plus important. Un papa ne donne jamais de mauvaises choses à ses enfants. Un ami donne des bonnes choses à son ami, un papa, lui, encore plus pour son enfant. Quand l'enfant lui demande du pain, le père lui donne du pain. Quand il donne du poisson, le papa lui donne du poisson. Quand il lui demande un œuf, il donne un œuf. Il ne donne pas des mauvaises choses. Et c'est là que Jésus va dire, si un papa terrestre pêcheur peut donner des bonnes choses à ses enfants, avez-vous seulement une petite idée de ce que Dieu, le papa, va faire quand vous lui demandez quelque chose? Et là, pour qu'on comprenne à quel point Jésus est sérieux dans ce qu'il dit, Jésus va dire, il va même donner le Saint-Esprit. Donc là, Jésus, il monte au top, là. C'est plus du pain, du poisson, puis un œuf. Là, Jésus veut que ça soit clair. Et pour que ça soit clair, il choisit quoi? Le Saint-Esprit. Essaye pas de monter plus haut, de trouver de plus précieux, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus cherche à démontrer à quel point le Père aime ses enfants, l'expression ultime de cet amour-là, nous dit Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le don du Saint-Esprit. Alors là, certains parmi vous, peut-être un peu comme moi, vous êtes un instant là. Je me souviens, le premier verset de la Bible que j'ai entendu, littéralement, là, c'était le 25 octobre 1974. J'ai entendu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don le plus précieux du Père, c'est le Fils, oui. Mais on fait quoi avec ça ici, où le Fils nous dit, lui, que le don le plus précieux, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez que si vous avez plus de questions à la fin, ben, joignez-vous à la gang. Mais c'est-tu beau? C'est-tu extraordinaire que Jésus, lui, quand lui vient l'opportunité de parler de comment Dieu aime, il ne dit pas, dans ce texte ici, il ne dit pas, c'est moi, le Fils. Le don par excellence. Voyez comment Dieu vous aime. Il parle du Saint-Esprit. Deux inséparables. Jalousie entre Jésus et le Saint-Esprit? Non. C'est comme, ils n'arrêtent pas l'un et l'autre de relever l'autre, de mettre l'autre en valeur. Pour moi, c'est une déclaration qui est stupéfiante, qui nous vient des lèvres de Jésus. L'expression ultime, le don par excellence, nous dit Jésus, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous comment il nous faut marcher dans cette vérité-là, dans cette expérience, dans la présence et le ministère du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas se tenir longtemps avec Jésus sans sentir Jésus qui, puis là j'utilise des images parce que ça nous en prend, on n'arrive pas, qui nous pousse vers le Saint-Esprit. Soyons confiants qu'on ne peut pas se faire pousser vers le Saint-Esprit et s'éloigner de Jésus. On ne peut pas se rapprocher de Jésus en s'éloignant du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus pensait du Saint-Esprit? Pourriez-vous me résumer? Je pense que vous serez capable. Qu'est-ce que Jésus pensait du Saint-Esprit? Bien, ça finit pas. C'est extraordinaire. Pas seulement qu'il pensait ceci et cela du Saint-Esprit, mais il lui faisait confiance. Il vivait l'expérience de cette relation avec le Saint-Esprit. Si tu es moindrement hésitant par rapport au Saint-Esprit, peut-être tu as été élevé dans un milieu où il y a eu des exagérations, ou je ne sais pas, mais rien de tout ça nous permet de ne pas ouvrir les bras, ouvrir notre cœur. Viens, Esprit de Dieu, et remplis-moi, conseille-moi, dirige-moi, montre-moi l'amour du Père. Donc, Jésus est en train de nous dire que le Saint-Esprit, il est une bonne chose, comme du pain, du poisson et un œuf, mais plus. Beaucoup, beaucoup plus. Mais aussi, voici autre chose. Il me semble, dans ce même texte, avec cette parabole, il semble qu'il y ait un bonus ici que j'aimerais qu'on puisse vraiment bien saisir et en profiter. Pour moi, Michel nous amène souvent à dire « wow », mais puis des fois, je suis à ma place, puis je dis « ben, je ne sais pas si c'est un « wow » pour moi ». Puis des fois, « ouais, Michel, c'est un « wow », voici mon « wow ». Mais pour moi, ici, on a vraiment un « wow ». Où est-ce qu'on est? Voilà. Quiconque demande le Père, le Saint-Esprit au Père, le Père va lui donner. Il y a un quiconque. Il y a un quiconque. C'est le quiconque qui est le fondement du protestantisme. C'est le quiconque qui inclut tout le monde qui voudrait bien demander, sans exception. C'est le fondement du protestantisme. Et le Saint-Esprit, c'est l'expression divine de notre égalité comme croyants. Quel que soit le nombre de jours ou d'années que vous connaissez Jésus, quelle que soit votre place dans cette Église, quel que soit votre rôle, le Saint-Esprit est pour toi comme il est pour le pasteur de cette Église, Michel. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. On va aller à la prochaine diapo. Oui, voilà. Il y a cette façon de voir les choses, il me semble, qui circule dans nos milieux, même évangéliques. Dans d'autres milieux qui se disent chrétiens, oui, vous allez voir, mais je pense aussi dans nos milieux évangélique. Et ça ressemble un peu à ceci, ce que moi j'appelle une erreur. OK, tu peux... L'onction du Saint-Esprit, c'est pour qui? Je vous suggère que ce qu'on va voir ici, que c'est une erreur. Vous en jugerez. On sait que l'onction complète du Saint-Esprit était sur Jésus. Hein? On va présumer ça. On est d'accord là-dessus. Deuxièmement, les apôtres ont eu une place importante dans l'Église. Les apôtres étaient des fondateurs, des piliers. On se dit dans le christianisme, dans la théologie chrétienne, que sûrement ils avaient une onction eux aussi, parce qu'écoute, il y avait tout un appel. Donc, il y avait une onction qui quand même était, on se dit, juste pour les apôtres quand même, parce qu'ils étaient les apôtres. Moi, je ne suis pas un des apôtres, toi non plus. Eux, il y avait une onction, pas complète, mais on va dire une onction unique et historique du Saint-Esprit. D'accord? On continue. Dans l'Église, il y avait des évêques, il y avait des dirigeants de région. Le mot évêque se trouve dans les Écritures. Et pour eux, on dit, mais quand même, ils ont des grandes responsabilités. Donc, ils ont, on va dire, une onction supérieure. Quand même, c'est bon, là. C'est pas pire. OK? On continue. Et dans l'Église, il y avait les prêtres, évidemment, dans l'Église chrétienne, catholique, orthodoxe. Et pour eux, il fallait quand même reconnaître qu'ils avaient aussi une onction, mais c'était pas des apôtres, c'était pas des évêques, c'est des simples prêtres. Mais l'onction régulière, c'est là que tu voulais trouver. Et ensuite, tu avais le reste de la gang. Ça, c'est vous, ça, c'est nous. Zéro. Donc, c'est pour ça que c'est important de se tenir avec ceux qui l'ont. Au moins une fois par semaine, se déplacer, la messe, eux autres sont capables de faire, ils ont une onction qu'on n'a pas. Voilà. Quand on regarde à cela, on peut rire un peu, on peut être surtout triste, mais je vous suggère d'abord que c'est une erreur, que ce n'est pas biblique, puis deuxièmement, que ça se trouve dans nos églises évangéliques. C'est-à-dire, à quelque part, on est... Le protestantisme dit ça là, c'est une erreur. Le protestantisme a dit sous Luther, chaque chrétien, chaque croyant reçoit la présence et l'onction du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Tous les croyants. Il n'y en a pas un qui en a plus que l'autre. Nos appels peuvent être différents. Notre expérience, notre intime. Mais onction, présence du Saint-Esprit, pas à 10%, mais tout le Saint-Esprit vient habiter le croyant. On va aller à la prochaine diapo. La vérité, ça ressemblerait à quoi? Bon, moi, j'ai pensé l'illustrer comme ceci. Le Christ, le Fils, Jésus-Christ, a une onction complète du Saint-Esprit. Ça, on s'est mis d'accord au tout début. Voilà. Cette onction-là, il la donne. Il baptise du Saint-Esprit. Il la donne à tous ses disciples. Tout simplement. Ça, c'est la réforme. Ça, c'est le protestantisme en grande partie. Mais pourquoi en est-il que des fois, j'ai l'impression qu'on vit notre christianisme selon l'autre diapo? on dépend, on passe par d'autres. Un pasteur qu'on aime, un grand frère qui connaît le Seigneur depuis plus longtemps, puis au lieu de prier, on lui demande, peux-tu prier pour moi? Toi, tu es branché, toi, tu es connecté, toi, tu sens m'entendre, toi, tu sens me remplir du Saint-Esprit. C'est vraiment facile de se retrouver dans l'erreur. Voilà, on va continuer. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Hein? À la fin de son ministère, il va dire, l'Esprit du Seigneur vient sur vous. Il ne dit pas, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il se pète les bretelles. Hein? Ah, ça, c'est moi, ça. Tenez-vous à votre place. Non, il donne, il partage. C'est extraordinaire que nous avons une telle foi, que nous avons un tel Sauveur, que nous avons un tel Saint-Esprit. Lui dont la condition, nous dit Paul, était celle de Dieu, Jésus dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée. Moi, je le garde le Saint-Esprit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Et il va dire à ses apôtres, juste avant de remonter au ciel, « Attendez, une puissance viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Et dans Actes chapitre 2, vous savez, c'est la Pentecôte. Et c'est exactement ce qui se passe. L'Esprit de Dieu vient sur des gens bien ordinaires. On se dit, écoute, il me semble ces gens-là, il semble qu'ils buvaient hier soir. Ça n'a pas de sens. Ça ne se peut pas que ce soit le Saint-Esprit qui... Oui, le Saint-Esprit venait de visiter chacun de ses croyants. Comment Jésus voyait-il le Saint-Esprit? Quelle relation avait-il, lui, avec le Saint-Esprit? Bien, il me semble qu'à travers ces passages, on commence ou on continue à avoir des réponses à cela. Rapidement, Luc chapitre 12. Je pense que c'est probablement la prochaine diapo, je ne sais pas. Non? Non, c'est peut-être pas là. Donc, ça va, ne t'en fais pas, Pascal. Luc 12, verset 10. Ah, on aurait peut-être voulu éviter ce passage parce qu'il va y avoir des questions. Puis, en disant au tout début, vous en aurez, il n'y a pas de problème. Jésus dit, « Toute personne qui dira une parole contre moi, le Fils de l'homme, dit Jésus, moi, ça sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. » C'est fort, hein? Ce genre de passage, peut-être qu'on aimerait pas voir dans nos Bibles, mais c'est là. Et je n'essaierai pas de l'expliquer, ce passage-là, autrement que ce que je vous propose comme façon d'accueillir ce passage ce matin. Il me semble qu'on voit encore ici que Jésus a un très haut estime de la personne et du ministère du Saint-Esprit. Il vient à la défense du Saint-Esprit. Il n'endure pas qu'on calomnie le Saint-Esprit. Il semble dire qu'il est unique et qu'on ne doit pas le mêler. Il ne se confond pas avec un mauvais esprit, avec un esprit démoniaque. J'aime ici Jésus qui vient comme, « Hey, touchez pas mon Saint-Esprit! » Il le back, il l'appuie. Entre Jésus et le Saint-Esprit, c'est comme entre Jésus et le Père. N'est-ce pas? Ce sont des inséparables. Tous pour un pour tous. Pour Dieu, il n'y a pas de ligne, nous dit Jésus. Tu peux aller. Écoute, Jésus semble nous dire, le pardon, il est là. Même si tu m'envoies promener, Dieu est prêt à te pardonner si tu reviens vers Jésus. Mais là, il dit, le Saint-Esprit, attention. Je vous suggère pour l'instant juste de voir à quel point, pour Jésus, le Saint-Esprit, il est important. Il est précieux. il n'est pas à négliger. Il n'est pas à dédaigner, au contraire. Jésus semble dire, « Mêlez-vous, venez pas, amenez pas la division dans notre famille, Père, Fils et Saint-Esprit. » Jésus est le gardien de la réputation du Saint-Esprit. C'est fort, hein? Donc, donnons-lui la place au Saint-Esprit dans nos vies, sans aucune hésitation. Dans Luc chapitre 12, et maintenant quelques versets plus loin, au verset 12, Jésus dit en effet, le Saint-Esprit dit ça aux apôtres, vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Hein? Donc, le contexte, on n'a pas le temps d'aller le voir, mais lorsqu'il y aura des moments de difficulté, de persécution, ne vous en faites pas, l'Esprit de Dieu va vous dire. Donc, si je pouvais ce matin aller voir avec vous à quelle fréquence les Écritures nous disent que l'Esprit de Dieu, il parle, il enseigne, il chuchote. Le chrétien a le privilège de l'entendre. Et si vous voulez développer la capacité d'entendre le Saint-Esprit, allez à la maternelle. Et la maternelle, c'est de méditer le texte biblique et de laisser l'Esprit de Dieu vous parler à mesure que vous méditez. Puis vous arriverez au point où même la Bible fermée, vous êtes dans l'autobus au centre-ville de Montréal, et vous allez savoir que l'Esprit vient de vous parler. Jésus dit, l'Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Jésus est plein de confiance dans le travail du Saint-Esprit. Jésus, l'enseignant, le maître, le rabbin, dit, « Hey, il y a quelqu'un d'autre qui va venir vous enseigner. » Moi, je me souviens comme professeur, comme enseignant, quand j'avais un substitut, un suppléant, je me disais, pauvre étudiant, ils ont le suppléant. Ils vont avoir hâte que Jean-Martin revienne. Jésus, non, Jésus dit, hey, c'est lui là qui va poursuivre ma tâche d'enseignement. Je lui fais totalement confiance. Tout ce que je vous ai dit, il va tout réviser ça avec vous. Il va vous enseigner des choses que je n'ai même pas encore enseignées. Voyez-vous comment c'est extraordinaire la relation qu'il a avec le Saint-Esprit? Un enseignement qui ne demande pas de passer par une école biblique, mais c'est un enseignement qui nous vient du Saint-Esprit. Oui, l'école biblique a sa place, on en parlera une autre fois. Mais il nous enseigne, il nous chuchote, il nous dit, il nous apprend. Quoi dire, même dans des circonstances invraisemblables de persécution? Écoutez, il vous dira quoi dire. C'est ce que Jésus ici nous dit. Donc, Jésus conçoit le Saint-Esprit comme son associé dans la mission avec ses disciples. Jésus voit la présence du Saint-Esprit en eux, comme lui-même vit la présence du Saint-Esprit en lui. C'est ça qu'il nous propose. Rien de moins. Il nous propose de vivre ce que lui vivait avec le Saint-Esprit. Voilà, nous allons presque terminer ici. Tu pourrais aller à la prochaine. OK, c'était ça que j'avais mis comme la prochaine. Peut-être juste avance. Oui. Si on retourne dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas beaucoup de chants sur le Saint-Esprit. Si je demande à Christian, écoute, ce matin, on veut 10 chants sur le Saint-Esprit, on lui donnerait, il les trouverait, je le sais, Christian, mais disons qu'il y aurait à creuser un petit peu, là. À travers l'histoire de l'Église, on ne retrouve pas beaucoup de chants qui s'adressent au Saint-Esprit. Mais il y en a un qui date de même avant la Réforme, et qui a été embrassé comme chant lors de la Réforme et par des protestants par la suite. « Veni Sancte Spiritus, viens Saint-Esprit. » Et si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de mélodies, toutes sortes d'éditions, toutes sortes de variations sur ce chant qu'on a chanté depuis des siècles et des siècles dans l'Église. C'est l'expérience de l'Église chrétienne avant et après la Réforme. d'appeler le Saint-Esprit à venir, à prendre la place. Pas qu'il n'est jamais venu, pas qu'il n'a jamais eu aucune place, mais on l'invite comme si, comme si on recommençait, comme si on voulait encore mieux le connaître. Viens, Saint-Esprit. Et ce sont des vieilles paroles, mais quand même, je nous les propose un peu. Je vous invite, je vais lire tout simplement ces paroles. J'avais même de la musique, mais on va laisser tomber. S'il y a un genre de... S'il y a une de ces strophes qui nous interpelle, c'est peut-être ça que l'Esprit de Dieu veut vous dire. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est subi, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Prochaine diapo. Voilà, OK. Je ne sais pas comment tu voudrais, toi, répondre. Puis même avant de répondre, juste de recevoir. Moi, c'est la manière, ça, c'est la prière qui, pour moi, émerge de mon cœur. Peut-être qu'elle peut te servir ce matin, ou tu l'as juste pour toi. Mais moi, je dis, viens. Viens, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Je te donne toute la place. Remplis-moi. Conduis-moi. Parle-moi. Et fais-moi un témoin de Jésus. Je m'abandonne à toi. Change-moi. Viens, Saint-Esprit, remplir ton Église, l'Oasis. Courbons nos têtes, fermons nos yeux, fermons notre bouche, ouvrons les oreilles de notre cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit ce matin?